La presse féminine est assez généreuse en raison de s'agacer. Son obsession d'abord pour nos tours de taille, tours de cuisses, tours de bras. Ouais ouais, le bras c'est le nouveau décolleté, c'est elle qui le dit. Sa tendance assez crispante aussi à répéter « on adore, on y court, on aime » alors que tout le monde sait que « on est un con ». Mais c'est sûrement quand la presse féminine se pique de parler de maternité qu'elle donne de sérieuses envies d'autodafé, même si c'est pas très Charlie. Voilà par exemple comment le féminin en ligne Terra Femina s'est attaché à lutter contre la discrimination à l'embauche après un congé maternité. Dit très bonne raison d'embaucher une mère de famille. Par pure charité, je vous fais grâce des 10. La mère de famille est une salariée idéale car la mère de famille est douce. Oui, douce. Comme le papier toilette triple épaisseur. La mère de famille est une salariée idéale, car elle ne perd pas son temps à dragouiller dans les couloirs. Bah oui, parce que comme elle a déjà été fécondée, la mère de famille a la libido d'un cale-porte. La mère de famille est une salariée idéale, car elle est organisée. Ça aussi, c'est bien connu, la pause de la péridurale est généralement suivie d'une grève de filofax directement dans le cervelet. Et enfin, et c'est véridique, la mère de famille sait désamorcer les conflits. C'est dommage quand même que personne ait songé à solliciter la médiation d'une mère de famille à la frontière ukrainienne. La mère de famille que je suis est aussi pétrie de contradictions, puisque c'est la même presse féminine qui m'a inspiré le thème de l'émission. Un article de juillet du magazine Elle s'est inquiété de l'actuelle exaltation sociale de la maternité. Fière d'être maman, c'est un hashtag. C'est peut-être aussi une incitation politique à faire le 2,1 enfant par femme réglementaire. Comment être mère en 2019 ? On adore et on en parle jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Nadia Dame sur France Inter.
Et j'ai le plaisir d'accueillir mes invités. Bonjour Camille Froide-Vaumétry.
Bonjour.
Je l'ai bien prononcé. Bonjour et bienvenue. Vous êtes philosophe féministe, professeur de sciences politiques. Vous êtes également chargée de la mission égalité-diversité à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Et puis vous avez publié Le corps des femmes, la bataille pour l'intime aux éditions Philosophie Magazine. C'est bien ça?
La bataille de l'intime, mais c'est
de l'intime. J'accueille également Fiona Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, autrice, vous avez publié L'amour après MeToo chez Hachette, et puis également un livre de cuisine, Les recettes d'une connasse, chez
Absolument.
Le même éditeur, on pourra peut-être en parler.
Ah, mais
et je crois que vous travaillez en ce moment un livre sur la charge maternelle, notion qu'on va évidemment aborder dans un instant. La sortie est prévue pour quand ?
Pour novembre.
Sur la charge maternelle.
Absolument.
Un titre provisoire ou définitif ?
Ça s'appellera « Lâchez-nous l'utérus ».
Ça aussi, on va y revenir.
Oui,
nous rejoignons par téléphone. Depuis ses vacances en Italie, merci. Bonjour Constance de Chambray.
Bonjour.
Et merci d'interrompre vos vacances. Donc vous tenez le site « Mum Days Mornings ». C'est toujours ça, je le dis bien.
C'est ça.
Dont je lis qu'il s'agit d'un webzine lifestyle pour les mums qui donne des bons plans pour les kids. Vous traduisez pour les Allemands LV1, s'il vous plaît.
Alors en fait, moi, je suis maman de deux enfants, ancienne avocate, et je me suis reconvertie pour donner en fait à toutes les mamans modernes des bons plans pour leurs enfants. Et puis j'ai créé un compte Instagram, et maintenant je suis blogueuse Instagram, où je partage mon lifestyle et ma petite vie de famille.
Et vous en vivez, question indiscrète, pardon, mais c'est devenu un métier ?
Alors, c'est devenu un métier. En fait, pendant deux ans, j'ai fait beaucoup de contenu, donc je ne gagnais pas d'argent. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, oui, j'en vis. J'en vis, puisque les marques, aujourd'hui, se servent de ces réseaux sociaux pour faire de la publicité. Et du coup, aujourd'hui, j'en vis, tout à fait.
Et puis on sera tout à l'heure au téléphone avec le psychanalyste Moussa Nabati, auteur de « Guérir son enfant intérieur », qui nous apprendra peut-être aussi à soigner sa femme intérieure. Il y a du boulot visiblement, Fiona Schmitt. Vous avez lancé ce cri du cœur à Lâchez-nous l'utérus en ouvrant également, il y a quelques mois, un compte Instagram qui s'appelle « Bordel de mère ». C'est un groupe de parole 3.0.
C'est un groupe de parole 3.0, pardon, qui est consacré à la fois aux mères et aux non-mères, aux nullipares. Je déteste ce mot, mais enfin, puisque c'est le terme consacré, à un maximum de femmes possibles pour parler de la maternité et de la non-maternité.
Et quel type de témoignages vous avez reçus ?
Alors j'en ai reçu
des mères, des non-mères,
oui,
des jeunes,
exactement.
Des moins jeunes.
Alors c'est vraiment l'idée de ce groupe de parole, comme vous l'avez dit, c'est d'avoir des expériences, de partager des expériences les plus diverses possibles sur la maternité et sur la non-maternité, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on ait envie d'en avoir ou pas, qu'on puisse en avoir ou pas, et quelle que soit notre situation familiale ou conjugale, et quelle que soit évidemment notre orientation sexuelle. C'est vraiment j'avais envie de que ce soit le plus ouvert possible
et le plus libre possible.
Et le plus libre possible, voilà. Autour de cette charge maternelle, ce que ça évoquait en fait à cette communauté de lectrices, puisqu'il faut dire communauté maintenant, ce qu'évoquait la charge maternelle.
Qu'on va tâcher de définir. Voilà. Midi 12 sur France Inter, ça n'a pas toujours été le générique de pub pour Petit Pot Carotte. On écoute les Suprêmes, Baby Love. Vous êtes sur France Inter, le débat de midi est consacré à la charge maternelle. L'émission est préparée par Anna Massardier.
Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux tant d'enfants.
C'est pas du tout comme ça que je voulais te le dire.
Sentir sans.
T'es enceinte ?
La vie te tend.
T'es enceinte de combien ?
Je veux un enfant.
De moi, je suis pas tout à fait sûre.
Je suis enceinte.
Être maman, c'est le plus beau.
Vous êtes à 8 cm.
Ouais, plus que 2.
Personnellement, un truc vraiment magique quand t'es enceinte, c'est tu sais, quand le bébé bouge. Surtout au début, quand tu le sens bouger, tu sais, ça devient concret, t'es comme ça, puis oh, il bouge.
Être maman, c'est contre son épaule, sentir une fête d'enfant.
Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle morning routine. Comme d'habitude, je me lève un petit peu avant Ella, vers 8h. Ensuite, j'entends Ella se réveiller vers 8h30 et je vais la chercher dans sa chambre. Elle a toujours super hâte de sortir de son lit pour aller jouer.
Les cartes Pokémon, qu'est-ce qu'on a dit chérie pour les cartes Pokémon? Non, pas à l'école. Non, je ne suis pas d'accord. Maman est très en colère.
Tous les amours s'achèvent.
je vous donnerai pas ma morning routine, elle est vraiment pas très intéressante. En revanche, je voudrais qu'on fasse un point sur la vision donnée de la maternité sur les réseaux sociaux et sur Instagram. C'est évidemment très moderne. C'était le sujet de ce fameux article du magazine Elle que je citais, qui s'indignait des Wonder Mamans. Constance, vous l'avez lu ce dossier du magazine Elle, c'était en juillet, qui était très critique, hein.
Oui, alors je l'ai lu et c'est pas le premier article en fait qu'on trouve comme celui du Elle, puisqu'aujourd'hui c'est un peu la nouvelle tendance où on critique ces perfect mum qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un peu dégradant en fait pour la femme, puisqu'on avait avant, ça existait en fait avec la presse papier où on voyait des femmes au corps parfait sur papier glacé, et aujourd'hui on voit des mamans qui s'affichent avec enfants, mari, et du coup ça a un peu plus d'impact parce que ça c'est la vraie vie. Donc en fait on va critiquer un peu ces perfect mums parce que ça culpabilise un peu la maman ordinaire qui se dit qu'elle n'arrive pas à faire la même chose, qu'elle n'arrive pas, elle, à élever ses enfants de la même manière. Et c'est là où il y a quand même une limite. Il faut faire la part des choses avec les réseaux sociaux et la vraie vie. Sur Instagram, en fait, et moi, j'ai un compte Instagram où je partage énormément de choses, mes voyages, ce que mangent mes enfants, etc. Alors moi, avec la volonté de cacher le visage de mes enfants, mais je partage en fait mon lifestyle. Et en fait, c'est plutôt, faut prendre ça comme une source inspirationnelle, c'est-à-dire un moyen où en fait on partage avec des mamans comme nous, plutôt que une vision où on va critiquer cette maman, parce qu'en fait on est tout ensemble, on est solidaires et on est là pour partager, pour s'inspirer, et on prend ce qu'il y a à prendre. Le côté de tous ces nouveaux articles où on critique en fait ces femmes-là, c'est limite en fait. On sait aujourd'hui que les réseaux sociaux sont pour toutes ces femmes, toutes ces mamans blogueuses aussi un business. Certaines n'hésitent pas à afficher en fait la tête de leurs enfants, les marques les sponsorisent, et donc c'est aussi une forme de business. Donc ouais, il faut faire la part des choses. Maintenant, aujourd'hui, la limite, c'est que entre toutes ces comptes assez sponsorisés ou les
monétisés hein, même. Hein.
Voilà, exactement, monétisés. Et les comptes plutôt ordinaires, la maman en fait n'arrive plus à faire la part des choses entre ces deux, en fait entre ces deux comptes par exemple. Mais après il y a vraiment une bienveillance en partageant en fait avec des mamans comme nous et en leur disant que voilà, on peut donner, par exemple moi je communique beaucoup sur sur le bio, sur mieux alimenter ses enfants, et je vois ça comme une sorte de comme un vrai partage, comme quelque chose de joyeux et pas du tout comme une je vois pas du tout ça comme...
Vous
fais ça pour culpabiliser les mamans.
Bien sûr. Vous nous avez dit en préparant l'émission que vous avez envie de montrer le beau. Mais le beau, est-ce le réel ?
Alors, le beau, est-ce le réel ? En fait, on montre le beau parce que je ne vais pas montrer sur Instagram mon enfant qui est malade ou voilà, parce que en fait, je n'ai pas envie de montrer ça. Instagram, ça reste un mood board. Ça reste des photos.
Alors, on va traduire mood board. Je vais être pénible, mais je vais vous demander de traduire plein de mots. Je vous ai laissé passer lifestyle, mais mood board, vous allez traduire.
En fait, un mood board, c'est une sorte de banque d'images, oui, où en fait on met Instagram, ce n'est que des images. Donc en fait, on met des images les unes à côté des autres, et quand on ouvre un compte Instagram, on est attiré souvent par la beauté des images. Donc on adhère à un univers. Chaque maman blogueuse a son univers, oui, mais on est là aussi pour on est toutes des mamans blogueuses, on est là pour magnifier la femme. Donc on est féministe à la base, on est là pour s'entraider, pour magnifier la femme, pour montrer que la femme sur les réseaux sociaux, elle a pris le pouvoir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment un lieu où les femmes ont pris le pouvoir. Ouais. C'est vrai, les marques et les femmes, on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on a à dire. Ouais. Et du coup, en fait, c'est vraiment, on est là pour magnifier la femme. On n'est pas là pour la dégrader. On n'est pas là pour se critiquer. Et quand le magazine Elle dit on en a marre de ces femmes parfaites, on n'est pas parfaites. On montre, en fait, on essaye de montrer le beau pour que les mamans puissent s'inspirer des choses que nous on veut partager. En fait, vous voyez ce que je veux dire.
Constance de Chambray, je vous cache pas que des paires de bras sont tombés dans le studio quand vous avez dit deux fois magnifier la femme. Fiona Schmidt, qu'est-ce qui vous dérange dans la formule?
Déjà, le singulier me gêne. Magnifier la, enfin, rien que le singulier me gêne, puisque la femme est par définition plurielle, on parlerait plutôt des femmes. Et ensuite, magnifier, moi, c'est un peu le
un peu le problème. Enfin, le problème n'est pas que la femme soit ou que les femmes soient belles, c'est qu'elle ne soit que belle ou qu'elle n'ait pas d'autres options que d'être magnifiée, en fait. Et voilà.
Camille Foidreau-Métry, sur l'esthétisation de la maternité, vous nous avez dit également en préparant l'émission que vous êtes un peu troublée par ces images, notamment le côté un peu sépia de la confiture, le domestique, le foyer. Qu'est-ce qui vous trouble?
Oui, parce que ce qu'il faut essayer de saisir, c'est ce que dit cette exaltation esthétique et médiatique de la maternité dans nos sociétés occidentales qui sont censées être des sociétés émancipées et dans lesquelles les femmes ont conquis un certain nombre de droits, et notamment le droit à la contraception et à l'avortement, qui leur permettent de contrôler leur nature procréatrice, nature avec des gros guillemets, bien sûr. Je crois que c'est un paradoxe qui mérite d'être pensé, parce que on est à la fois dans une situation où les femmes peuvent choisir le moment de leur maternité, déterminer l'intervalle de temps entre deux naissances, choisir même de ne pas avoir d'enfant du tout, et en même temps, comme dirait l'autre, elles subissent un faisceau d'injonctions de plus en plus puissantes, et ces injonctions sont nourries par cette esthétisation de la maternité.
Qui prennent quelle forme, ouais.
Alors, c'est une forme de prescription à la maternité. C'est-à-dire que le fait d'avoir des enfants est devenu un choix libre, et de fait, c'est presque, enfin, dans nos sociétés occidentales, et du coup, ce libre choix, c'est quasiment le plus sublime de tous. Et il y a une façon de présenter ce choix comme étant, du coup, incontournable, quitte à ne faire qu'un enfant, mais alors celui-ci sera, pour le coup, carrément surinvesti.
L'enfant devient un projet, il remplace le projet professionnel,
il le remplace ou il le complète, le projet parental. Mais ce qui est important de remarquer, et je pense que ça a vraiment un lien avec le phénomène qu'on est en train d'essayer de décrypté, c'est que le projet parental aujourd'hui précisément, il n'est plus porté que par les seules femmes. Et je crois que cette possibilité qui est aujourd'hui donnée par exemple à des couples homosexuels, à des femmes seules, à des hommes seuls, de former un projet parental, c'est quelque chose qui effraie et qui n'est pas pour rien à mon sens dans cette espèce d'engouement pour la figure de la mère présentée sur les réseaux sociaux. Généralement, les pères et les maris, ils sont très très peu présents.
Ils sont derrière le CE qui
prennent
la photo.
Ils disent pas grand chose et ils sont eux aussi mis en scène, et ça a du sens parce que je trouve que il y a de quoi s'interroger sur cette forme de réactivation de la figure maternelle comme une forme d'idéal. Mais quand je dis idéal social, c'est au sens fort du terme, parce qu'on observe par exemple que dans le monde de l'entreprise, alors on n'a pas encore inventé le management maternel, mais il y a aujourd'hui quelque chose qui y ressemble beaucoup, qui est le happy management, c'est-à-dire que les valeurs prétendument associés à la maternité, empathie, sens du réel, pragmatisme, conciliation, etc. La fameuse résolution des conflits que vous évoquiez en introduction. Toutes ces valeurs soi-disant maternelles sont aujourd'hui des ressources dans le monde de l'entreprise, et ça dit beaucoup de cette curieuse réactivation de la figure de la mère dans notre société.
Fiona Schmidt, cette oui. communauté en ligne de maman, elle est excluante?
Oui, dans une certaine mesure. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que Camille Froidevaux-Métry disait au sujet de la maternité. Effectivement, les valeurs féminines, en tout cas, sont très valorisées au sein de l'entreprise. Mais je remarque aussi, enfin, c'est surtout les abonnés, la communauté de Bordel de Mer remarque aussi que paradoxalement, la maternité, c'est aussi un frein dans l'entreprise. Enfin,
c'est-à-dire qu'en entretien d'embauche, on va vous demander si vous avez déjà procréé, si vous comptez procréer.
Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs témoins qui m'ont rapporté que les compétences de la nounou avaient été davantage évoquées que leurs compétences à elles. C'est-à-dire qu'on leur a, il y a des jeunes femmes à qui ou des femmes d'ailleurs, pas forcément jeunes, à qui on demande le contrat de travail de la nourrice.
Donc, Constance de Chambray, comment, alors dites-moi si c'est une question vraiment très haut personnelle, mais on parlait de la place des hommes dans cette esthétisation de la vie de maman. Il est où le papa? Devant, derrière l'appareil photo?
Alors, le papa, en fait, sur les réseaux sociaux, en fait, et surtout sur Instagram, le papa, lui, il n'apparaît pas. Le papa, il n'apparaît pas, comme vous avez dit très justement, le papa, il prend les photos, et il est là, voilà, il est plutôt là, le papa, en fait, n'est pas là, puisque, en fait, le papa, il s'exprime, en fait, il travaille, justement, en entreprise, et la mère qui a décidé de mettre aussi sa carrière de côté pour s'occuper de ses enfants, cette mère-là, elle a besoin de reconnaissance. Cette mère-là, en fait, qui s'occupe de ses enfants toute la journée, et ben en fait, elle va mettre en scène sa vie pour avoir finalement une reconnaissance finalement de sa communauté. Donc chaque blogueuse finalement a son univers et voilà. Et c'est en fait c'est une sorte voilà, c'est un idéal en fait qu'elle met en avant, mais c'est plutôt positif et bienveillant. Et c'est là où ces articles un peu castrateurs, voilà, des magazines comme le Elle, qui sont les premiers à faire des couvertures avec des femmes parfaites ou des sujets sur les familles parfaites.
On sera
voilà,
on sera d'accord sur le sur la, la voilà, contradiction.
Cette, cette nouvelle cette nouvelle.
Pardon, je vous ai coupé.
Et en fait, voilà, donc il y avait voilà, maintenant aujourd'hui, les femmes aujourd'hui n'ont plus beaucoup le temps de lire la presse féminine, mais ce sont des mamans qui sont très connectées. Elles s'occupent d'elles, elles s'occupent aussi de leurs enfants. Elles sont très exigeantes. Elles sont plutôt à la recherche de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'elles veulent des infos tout de suite. Elles veulent pouvoir s'informer assez rapidement. Et donc sur ces réseaux sociaux, elles s'évadent, mais elles s'informent sur la nourriture, sur la mode, sur les loisirs, sur le bien-être. Et donc, en fait, faut aussi se dire que Instagram et les réseaux sociaux, c'est comme une sorte de bible pour les mamans et pour les femmes. Et on montre, oui, quelque chose de positif et bienveillant. Et du coup, c'est vraiment, c'est voilà, tout, moi et moi sur mon compte, c'est vraiment joyeux. Je partage, mais pas du tout, enfin pas autre chose. Et je suis pas là souvent. Il y en a certaines femmes qui m'ont écrit. Vous savez, mais moi, j'ai pas le temps de faire du sport parce que je travaille jusqu'à 21h et j'ai 4 enfants, mais je dis mais vous savez, faudrait que vous preniez plus de temps pour prendre soin de vous, peut-être que vous pourriez confier les enfants au papa. En fait, c'est dans l'idée d'un idéal qu'on aimerait atteindre, et pas du tout comme une critique ou pour faire culpabiliser ces mamans. Je répète encore ça, c'est pas du tout culpabilisateur pour ces femmes. C'est un vrai réseau d'entraide en fait finalement, et voilà.
Camille,
donc, en tout cas, ça c'est mon avis. Et le papa n'apparaît pas.
Oui, on vous a entendu. Camille Froidevaux-Métry, vous voulez réagir?
Je veux bien que l'intention soit bonne, et d'ailleurs, enfin, en tant que féministe, je me permettrai pas de juger. Je considère que, en toute cohérence féministe, tous les choix de vie, relativement notamment à la fonction maternelle, sont légitimes, et donc il n'y a pas à déplorer telle ou telle façon de vivre sa maternité. En revanche, pour la dimension prétendument non culpabilisatrice, là j'avoue que je suis un peu dubitative. La meilleure preuve en est qu'il existe des comptes désormais qui sont des sortes de contre-propositions de mères bordéliques, de mères dépassées, débordées, qui mettent en scène le grand bazar qu'est leur existence,
la vraie vie,
de mère, la vraie vie. Et donc ça dit bien qu'effectivement il y a un certain nombre de d'injonctions qui peuvent être vécues comme un peu culpabilisatrices. Mais une fois encore, moi, ce qui m'intéresse dans le phénomène, c'est cette espèce d'obsession de l'idéal maternel. Parce que je crois qu'il y a quelque chose d'un peu important qui se joue là. Je suis pas loin de penser que c'est un peu le prix à payer pour les femmes occidentales que d'accepter de demeurer ainsi dans leur rôle traditionnel, que d'accepter que leur corps, notamment, reste, comme ils l'ont été depuis l'aube des temps, des corps à disposition.
Maternel et à disposition.
À disposition, c'est-à-dire des corps sexuels à disposition, des corps maternels à disposition, et que c'est d'une certaine façon, enfin, du coup, ce que l'on demande aux femmes, c'est certes, voilà, on leur propose de devenir des hommes comme les autres, dans la sphère sociale, dans la sphère professionnelle, mais pour peu qu'elles acceptent de continuer à remplir leur rôle traditionnel. Or, sur ce terrain-là, moi, ce qui me semble vraiment le grand tournant que nous devons prendre aujourd'hui sur le terrain féministe, mais pas seulement, social général, c'est celui de la part des hommes dans le projet parental et dans la vie familiale. Et ce que je déplore un peu, c'est que d'entretenir ainsi une forme d'exaltation idéale, d'une idéalisation de la maternité, ça perpétue l'exclusion des hommes des projets parentaux et des vies familiales.
Et on est en ligne avec Moussa Nabati, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes psychanalyste, je vous en prie, merci à vous de répondre. Alors je le disais en début d'émission, c'est un peu vous qui m'avez inspiré le thème de cette émission, parce que dans l'article que je citais, vous dites cette phrase assez frappante: être fier de ses enfants, c'est une chose, être fier de son statut maternel, c'est assez bizarre. Et c'est une phrase qui vous a valu quelques commentaires sur les réseaux sociaux, vous les avez peut-être vus ou pas. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Voilà, en fait, si vous voulez, donc je pense que la fierté est une émotion tout à fait légitime, comme toutes les autres émotions, c'est-à-dire la pitié, la honte, enfin, ce sont les émotions positives ou négatives qui sont légitimes. Alors, effectivement, quand une femme devient mère, voilà, je trouve que c'est tout à fait légitime qu'elle se sente heureuse, pourquoi pas, comblée, oui, fière, pleine, voilà. Mais ça ne sera pas vécu de façon intense et ça ne sera pas vécu de façon, enfin, dans la très grande durée. Parce que si elle n'est pas prisonnière de son enfant intérieur, je veux bien expliquer tout à l'heure qu'est-ce
que
c'est
l'enfant intérieur. Ah oui, l'enfant intérieur, c'est pas très clair comme ça.
Il y a des limites, il y a des nuances, il y a une espèce de relativisation à cette fierté que je considère tout à fait comme légitime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est fière, mais enfin, elle se rend compte en même temps que la maternité est un phénomène strictement banal, strictement naturel.
C'est pas un exploit.
Et que toutes les mammifères arrivent à avoir des enfants, les rats, les éléphants, les vaches, les baleines, etc. Deuxièmement, la fierté, oui, mais elle s'aperçoit, enfin, elle réalise, elle accepte qu'il y a aussi l'homme, le père, qui la rend femme en la désirant. Et qui la rend mère en lui offrant la semence.
Pardon, Moussana, si je vous coupe, mais je vous coupe.
La fonction paternelle soit quelque peu désacralisée.
Je vous coupe juste pour rebondir sur une phrase que vous venez de prononcer. La femme a besoin du désir masculin pour se sentir femme, ou j'ai mal compris?
Il y a une espèce de dialectique,
vous confirmez,
si vous voulez, entre l'homme et la femme, c'est-à-dire l'homme fait la femme fait l'homme. Il n'y a pas d'essence masculine, il n'y a pas d'essence féminine. C'est une dialectique où chacun crée l'autre en se créant. Chacun fonde l'autre en se fondant lui-même. Donc, si vous voulez, on s'aperçoit, enfin, elle relativise la fierté en se réalisant que c'est un phénomène naturel, que l'homme l'a aidé aussi dans une équipe, qu'il y a le triangle qui est important, que c'est aussi qu'elle devient mère aussi grâce à l'enfant, parce que il y a des tas de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et parce que, biologiquement, c'est précisément le processus de lactation, vous voyez, c'est-à-dire que démarre à l'accouchement. Donc, en fait, l'essentiel, c'est pas l'homme, c'est pas la femme, c'est pas l'enfant, c'est le triangle.
Oui, on va s'éloigner du champ biologique, je crois.
C'est aussi relativisé, parce qu'elle se rend compte aussi que si elle a des enfants, c'est grâce à la médecine, au progrès de l'obstétrique, parce qu'avant, il y avait une mortalité infantile extrêmement élevée, et qu'en fait, l'enfantement, la maternité devient comme un concert où chacun a son rôle à jouer. Mais elle s'aperçoit également que la maternité n'est qu'un aspect, un seul aspect de son identité plurielle. Et justement, si elle n'est que mère, c'est la pire façon d'être mère et d'élever les enfants que quand elle est uniquement mère. Alors que quand elle est dans son identité plurielle, elle est une femme, elle est aimée sexuellement et satisfaite amoureusement, si vous voulez, par son compagnon. Elle est socialement intégrée, elle est citoyenne, elle a elle-même une vie intérieure dans l'art, dans la spiritualité, etc. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que l'enfant n'est pas tout pour elle, et il n'est pas dévoré par la mère, et que ça veut dire aussi qu'elle n'est pas toute pour l'enfant et qu'elle n'est pas toute puissante. Oui, oui. Il y a la fonction de paternelle qui est une fonction de séparation, mais pas de séparation. Pourquoi il y a séparation? Pour qu'il y ait lien.
On en parlera une autre fois parce qu'on va être en retard, Moussana Bati, je suis obligée de vous couper. Merci beaucoup.
Merci,
je crois que vous êtes fait des amis encore dans ce studio. Après, vous êtes fait des amis sur Instagram. Fiona Schmidt, une réaction, alors pas sur les questions de désir féminin et masculin, mais sur le...
Moi, j'étais d'accord avec la première partie, uniquement la première partie, hein, je précise, de l'intervention. En fait, c'est la question de la fierté d'être mère, c'est quasiment une question rhétorique aujourd'hui.
Oui.
Tellement on vit dans une société qui est nataliste et qui glorifie la maternité. Alors c'est pas le problème qu'on glorifie la maternité. C'est très bien d'avoir des enfants et d'être mère quand on veut l'être, évidemment.
Et quand on peut l'être.
Et quand on peut l'être, bien entendu. Le problème, à mon sens, c'est que cette question quasiment rhétorique, elle implique le fait que ne pas être mère par choix. Ou pas par choix, est une source de honte ou d'embarras. Alors évidemment, les gens ne vous le diront pas comme ça.
Vous dites quoi? Quand je dis que j'ai pas d'enfant, on me regarde comme si j'étais Hitler.
Ah ben c'est
le sentiment que vous avez.
Dans le pire des cas, mais en tout cas le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est déjà être marginalisé au sein de la société, et le fait d'affirmer qu'on ne veut pas d'enfant,
Bon, bah là, c'est carrément être une erreur 404 de la féminité. Hein.
Ouais.
C'est comme on dit dans The Handmaid's Tale, c'est
la servante écarlate. La
voilà, la servante écarlate, c'est être un peu très trop genre, quoi.
Camille Froide-Vaumétrie, il y a une expression que je voulais vous soumettre qui me semble intéressante et qu'on soumet souvent aux femmes, qu'on propose souvent aux femmes quand on leur demande si elles vont faire un enfant, c'est quand est-ce que tu nous fais un petit deuxième ? Qu'est-ce qui veut dire ce nous sur la place de la femme dans le...
Il renvoie la place de la femme dans nos sociétés depuis l'aube des temps, c'est-à-dire une définition très fonctionnaliste. La fonction des femmes, c'est de faire des enfants pour la société. Donc c'est le quand est-ce que tu nous fais des enfants ? C'est pour les donner à la société. Souvent, c'est les grands-parents qui peuvent avoir ce type d'expression. C'est précisément le cœur du problème, je crois, cette définition des femmes par la fonction. En écoutant l'intervention de
Moussa Nabati,
psychanalyste, je me faisais la réflexion de cette obsession que nous avons aujourd'hui, dont il faudrait se débarrasser, de chercher à définir les femmes avec tout un certain nombre d'épithètes ou de fonctions. Alors, il y a la mère, il y a l'amante, il y a la femme spirituelle et puis la femme sociale. Je crois que cette façon de chercher à catégoriser nous enferme dans précisément toute une histoire de rôles très construit, historiquement, socialement construit, dont nous essayons aujourd'hui précisément de nous défaire. La revendication principale, peut-être, ce serait justement d'arrêter d'être définie par une quelconque fonction ou par un quelconque rôle dans nos sociétés. Il y a effectivement des femmes qui ne désirent pas d'enfants aujourd'hui. Cette question du non-désir d'enfant, elle est importante parce qu'elle dit bien, elle dit beaucoup de choses. Elle dit d'abord beaucoup de ce que sont les femmes dans nos sociétés contemporaines occidentales, c'est-à-dire précisément des individus qui ne se définissent plus par leur fonction maternelle, qui peuvent, le cas échéant, être mères, mais qui ne se définissent plus prioritairement par cette fonction. Cette évolution, elle dit aussi, comme je le disais tout à l'heure, que le poids du renouvellement des générations, la responsabilité de l'enfantement ne pèse plus aujourd'hui exclusivement sur les épaules des femmes. Il faudrait qu'on arrive enfin à pouvoir le dire.
Il est 12h38 sur France Inter, on écoute Céleste Faverson, écoutez vraiment, c'est sublime.
C'était Céleste. Je vous avais pas menti, hein. Je remercie chaudement Thierry Dupin à la programmation musicale du débat de midi.
Le débat de midi. Nadia Dam sur France Inter.
Fiona Schmidt, vous me disiez, vous n'avez pas écouté Céleste, c'est pas bien, mais vous me disiez pendant la chanson que vous vouliez faire un point sur la notion d'instinct maternel dont on pensait que ça y est, c'était soldé et que tout le monde savait plus ou moins que l'instinct maternel, ça n'existe pas. Oui, c'était pas quelque chose de naturel.
Moi, j'étais très rassurée parce que je ne l'ai jamais eu et donc j'étais très rassurée effectivement puisque je pensais que c'était
quand bon, vous
c'était
dit,
normal, oui. que voilà, que c'était culturel. Mais apparemment, il y a quand même beaucoup de gens qui estiment que ça existe, enfin que l'instinct maternel existe. Alors, moi, je remarque que tout le monde n'a pas la même définition de ce que c'est que l'instinct maternel, qu'il est variable à la fois dans le temps et dans l'espace. Et puis, moi, j'aimerais dire plusieurs choses sur l'instinct maternel. D'abord, l'instinct maternel, c'est conçu comme l'amour des enfants en général et des siens en particulier, et le fait de savoir instinctivement, prendre soin d'eux.
Alors,
savoir-faire, exactement. Moi, je voudrais d'abord dire que le fait d'aimer les enfants n'oblige pas forcément à en fabriquer soi-même. Voilà, moi j'aime faire la cuisine.
Vous aimez bien les enfants, rassurez tout le monde.
Moi j'adore les enfants.
Alors qu'on a le droit de pas les aimer par ailleurs.
Oui, j'ai par ailleurs un amoureux qui a 3 enfants, ça se passe très bien, qui ne sont absolument pas contraceptifs. Le fait de ne pas vouloir d'enfants n'a rien à voir avec mes belles-filles. Mais le fait d'aimer les enfants n'oblige pas à en fabriquer soi-même. Et puis par ailleurs, au vu du nombre d'enfants maltraités, on peut douter du fait que l'instinct maternel soit si naturel, ou en tout cas qui soit livré avec la maternité en tout cas. Et on a tendance aussi à présenter le lien entre la mère et son enfant comme un lien magique. Et ça, je trouve que c'est très culpabilisant. Enfin, j'ai eu plusieurs témoignages là-dessus sur Bordel de Mère, où les mères s'inquiétaient de ce lien qu'on présentait comme magique, qui ne s'opérait pas avec leur enfant. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on présente ce lien magique comme naturel, alors que la magie,
c'est fantastique ou surnaturel. Voilà, enfin,
ce n'est pas naturel par définition, c'est surnaturel. Et je crois qu'il est psychiatre Jacques André qui a établi que le lien n'était pas nécessaire, enfin que le lien entre
pas
la mère et l'enfant,
mécanique, automatique,
exactement, qui mettait parfois du temps à se mettre en place. Donc je trouve que c'est très culpabilisant cette histoire de lien, d'instinct maternel, de trucs magiques. Voilà.
Camille Froidevaux-Métry, un phénomène, une notion qui est encore plus taboue, plus inaudible, ce sont les femmes qui regrettent d'être mères. On commence à peine à en parler, il y a quelques prises de parole timides et pour cause, parce que tout le monde leur tombe dessus, le regret d'être mère. Des femmes qui aiment leurs enfants, ou pas d'ailleurs, mais qui disent le plus naturellement du monde, je regrette d'avoir fait des enfants.
Oui, c'est la notion de regret maternel qui a été étudiée même pour la première fois récemment par une sociologue israélienne qui s'appelle Orna Donat, qui a fait une enquête auprès d'un certain nombre de femmes mères de famille et qui partageaient ce sentiment très enraciné de regretter, non pas leurs enfants bien évidemment, mais simplement le fait de regretter la maternité. Et quand on observe les motifs et les explications qu'elles donnent à ce regret, on s'aperçoit que c'est tout à fait les mêmes que les explications des femmes qui ne désirent pas d'enfants. Il s'agit en fait d'un non-désir d'enfant a posteriori. Alors, c'est évidemment un petit peu plus complexe puisque
ça
enfants...
pose une question de consentement, c'est-à-dire qu'elles ont fait des enfants avec un consentement.
Oui, voilà, c'est plus exactement ça. C'est-à-dire que c'est des femmes qui, comme celles qui ne désirent pas d'enfants,
pour elles.
Le justifie. Il y a un faisceau de raisons, mais disons le fil rouge des justifications pour ne pas désirer avoir d'enfants, c'est quelque chose qui a à voir avec le désir de conserver une existence la plus libre possible et de développer des projets par ailleurs. Et bien, les femmes qui ont eu des enfants qui le regrettent sont les femmes qui regrettent a posteriori de ne pas avoir pu développer leurs projets par ailleurs, de ne pas avoir pu éprouver pleinement leur liberté. Et c'est tout à fait symptomatique. Alors, le fait qu'elles en aient eu, évidemment, c'est parce qu'elles vivent dans des sociétés qui les incitent, voire prescrivent la maternité, mais c'est quelque chose, disons, qu'elles n'ont pas pu esquiver, que du coup elles regrettent. Et ça fait partie de cet ensemble de phénomènes qu'il faudrait essayer de démonter pour essayer de parvenir à une définition de la maternité qui soit, disons, au prisme de la liberté et au prisme aussi de l'égalité entre les individus, et je parle là de la parentalité.
Constance de Chompré, en direct depuis l'Italie, je le rappelle, vous avez parmi votre communauté des femmes qui vous écrivent pour vous dire qu'elles sont malheureuses, épuisées, fatiguées, qu'elles regrettent peut-être parfois leur choix de vie, ça vous arrive ?
Alors non, j'ai eu en fait, j'ai une communauté qui est pas énorme. En fait, j'ai 21 000 followers, ce qui est pas une communauté énorme. Il y a des mamans en fait blogueuses qui ont beaucoup plus, mais j'ai une communauté qui est assez engagée, c'est-à-dire qui réagit à mes posts.
Ah oui, pas engagée au sens politique, engagée sur le clic, c'est ça.
Voilà, non, mais engagé sur les messages que je veux faire passer.
D'accord.
C'est-à-dire quand je parle de il faut mieux alimenter ses enfants et que je prône une alimentation bio ou je lance des sujets sur les cantines en France.
Ouais.
Elles réagissent, elles partagent. Donc c'est une communauté assez engagée. J'ai eu deux mamans qui m'ont écrit une fois en me disant, vous savez, moi j'habite, je suis une maman seule, j'habite en banlieue parisienne, je fais une heure de trajet tous les matins, j'ai 4 enfants, je ne peux pas, je suis obligée de les mettre à la cantine, je ne peux pas leur préparer un repas équilibré le soir, je n'ai pas le temps. Et en fait, à ces mamans-là, je sens une sorte de détresse, je leur réponds, mais en fait, vous, ce que vous faites, c'est déjà très bien, et peut-être que vous pourriez, dans ces cas-là, essayer de donner plus de prix, par exemple, le soir. Je leur réponds toujours avec bienveillance pour pas justement les faire culpabiliser. Moi, voilà, j'ai de la chance, j'ai la chance de pouvoir voyager, j'ai la chance de... Et donc, je partage ces bonnes adresses. J'ai la chance d'être aidée. J'ai une maman qui m'aide énormément avec mes deux enfants. Mais pour autant, je suis toujours là à répondre quand je sens des femmes qui disent « Moi, j'arrive pas trop à m'identifier à votre lifestyle, à votre vie. » Mais ça, finalement, c'est assez rare. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement, en fait, de blogueuses, de d'univers différents. Et c'est là où ce que je reproche à ces magazines, c'est que finalement, si finalement ce compte ne te plaît pas, si tu sens que cette femme est fausse ou finalement que elle te fait trop culpabiliser, et ben j'ai envie de dire libre à ces femmes-là de ne pas suivre ces comptes. Moi-même, je suis des comptes qui m'inspirent, dans lesquels je puise des idées, soit que ce soit mode, que ce soit pour mes enfants, que ce soit voyage, ou comme finalement un magazine qu'on achète parce qu'il nous plaît, parce qu'on a des choses à y apprendre à l'intérieur de ce magazine, ou voilà. Donc c'est aussi critiquer, c'est facile. Il y a tellement de comptes aujourd'hui, Instagram est tellement développé que si ça nous plaît pas, on va voir. On va voir ailleurs et on va suivre. On va suivre par exemple la maman bordélique qui va toute la journée dire que c'est le bordel chez elle et que c'est la galère avec ses enfants. Je veux dire, si on s'identifie à ce genre de personne, on suit ce genre de personne.
Une réaction d'auditrice. C'est une réaction d'auditrice que je vous livre à toutes les trois. C'est Geneviève qui nous écrit ceci. Fierté ou non, cette fonction devrait bénéficier d'une plus grande reconnaissance de la société. Camille Froidevaux-Métry, ça soulève la question qui est un vrai serpent de mer du salaire maternel ou du salaire ménager qui est réclamé par certains. C'est-à-dire rémunérer les femmes pour leur travail domestique et institutionnaliser le rôle de maman à plein temps.
La maternité n'est pas un métier ? Donc je vois pas pourquoi on devrait la salarier. Je trouve que ce serait au contraire régresser d'une certaine façon. C'est des projets qu'on connaît bien
une idée défendue par l'extrême droite.
Oui, le salaire ménager entre autres, pas que ménager. Mais oui. Camille Froidevaux-Métry.
Oui, voilà, donc il y a tout un ensemble de politiques dont on sait très bien qu'elles sont un peu hyper maternalistes et qui contribue à enfermer les femmes dans leur rôle maternel, et c'est bien dommage, notamment le fait que le congé parental soit si difficile à prendre pour les hommes.
Alors on peut s'intéresser un instant au congé parental pour les hommes et à l'état de ce débat-là en France par rapport à d'autres pays, les pays scandinaves. Est-ce qu'on aurait le même débat, la même émission ici qu'à Stockholm où l'implication des pères dans le foyer n'est pas du tout la même?
Bien sûr que non, parce que nous restons dans cette tradition assez maternaliste qui exclut les hommes de l'unité univers familial, et donc le congé parental est pris dans son immense majorité par des femmes. Il y a quelques pourcents d'hommes qui parviennent à le prendre pour des raisons souvent légitimes financières, mais néanmoins on pourrait quand même s'attacher à essayer de changer un peu notre système, et notamment ce congé de paternité misérable de 11 jours aujourd'hui octroyé au papa français. Et je regrette beaucoup que la France se soit opposée l'année dernière à une directive européenne qui prévoyait d'harmoniser les congés de paternité à l'échelle européenne et de permettre donc au père de prendre des congés de paternité
donc
plus longs et mieux rémunérés.
C'est un problème de volonté politique?
Absolument.
Ou que la France, la société n'est pas prête?
C'est un problème de volonté politique. Il y a bien des pays dans lesquels le congé parental se partage très équitablement entre les hommes et les femmes, dans les pays scandinaves, mais pas seulement, au Canada également. Non, c'est vraiment une question de volonté politique.
Constance de Champré, quand on a dit, vous venez d'entendre, être maman n'est pas un métier, vous souscrivez à cela? La maternité n'est pas un métier, plus précisément.
Oui, tout à fait. Moi, je souscris à ça. Être maman n'est pas un métier. Mais pour autant, je valide aussi que, justement, les réseaux sociaux soient un moyen de s'exprimer pour ces femmes qui... alors, moi, j'ai monté une marque. Donc, c'est différent puisque je ne suis pas que maman et que maman sur Instagram. J'ai monté ma petite entreprise et donc, voilà. J'étais ancienne avocate et j'ai changé de métier. Mm-hmm. Mais pour des mamans, et la plupart, toutes ces mamans blogueuses ne travaillent pas. Donc, je peux aussi comprendre que, indépendamment du fait que la maternité soit être mère n'est pas un métier, qu'on ait besoin de reconnaissance et qu'on ait besoin aussi de s'exprimer, de partager finalement sa petite vie quotidienne avec des mamans réceptives qui adhèrent à l'univers et qui adhèrent finalement à certaines postures de ces mères. J'y adhère tout à fait. Si après, finalement, la communauté grandit et que des marques rémunèrent ces mamans en donnant, par exemple, en faisant emporter des vêtements à leurs enfants, j'y adhère aussi en fait. Je veux dire, Instagram devient aujourd'hui un business, donc finalement la mère lambda, et il y en a beaucoup, 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 qui a commencé à partager la vie de ses enfants en vacances, puis en partageant ses voyages ou ses bons plans, et puis finalement une énorme communauté qui la suit, puis finalement qui aujourd'hui gagne sa vie par les... Enfin, je veux dire, j'adhère tout à fait. Donc en fait, au début, c'est pas être mère, c'est pas un métier, puis grâce à Instagram, être mère peut devenir un métier dans le sens où en partageant toute cette vie de famille, les marques adhèrent et payent ces mamans blogueuses. Et donc, en fait, la femme qui, à la base, partageait sa petite vie quotidienne existe aujourd'hui, en fait. Mmh. Existe aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est très important aussi. Et finalement, pourquoi pas, en fait? Finalement, être blogueuse, je dirais maman, c'est aussi un métier comme un autre. Donc ça, je le défends tout à fait.
Camille Freud-Vaumetri, on existe en tant que maman sur Internet grâce aux marques?
Écoutez, si certaines femmes ont besoin de cette reconnaissance médiatique, voilà, une fois encore, je ne blâme personne. Ce que j'observe simplement, c'est que depuis toujours, le corps des femmes ne leur appartient pas, et singulièrement leur corps maternel. Et dans le mouvement actuel, ce qui m'intéresse davantage que ces propositions qui consistent d'une certaine façon à tirer une forme de profit, à la fois narcissique et financier, de sa condition de mère, je préfère des initiatives du type de celles qui consistent pour les femmes futures mères, à reprendre le contrôle justement de ces corps qu'elles sont censées abandonner à la société une fois qu'ils sont enceintes.
Comment font-elles ?
Eh ben, je pense notamment à tout ce mouvement de lutte contre les violences obstétricales.
Ça a été le sujet d'un débat de midi au mois de juillet.
Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, ça, pour moi, c'est vraiment le signal, enfin le signe de ce que on peut être mère, en être fière, en tout cas apprécier cette condition, mais aussi se battre sur le terrain politique pour essayer que les femmes puissent vivre leur maternité de façon, disons, pleine, c'est-à-dire d'avoir le contrôle.
Depuis l'accouchement, donc?
Absolument, enfin depuis la grossesse,
la préparation,
même.
Ouais.
Depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement et au-delà, c'est-à-dire que ce dont il est question, je crois, dans aujourd'hui, c'est vraiment pour les femmes de se réapproprier leurs conditions de mère, pas nécessairement à travers ce prisme, disons, esthétisant, mais pourquoi pas en partie, mais surtout sur un plan politique pour essayer de s'affranchir précisément de ce carcan qui était le leur jusqu'à présent.
Fiona Schmidt, la charge maternelle, c'était le début de l'émission, on a évoqué cette notion au début de l'émission, ça va se populariser, ça va rentrer dans le langage commun, comme on parle aujourd'hui davantage de charge mentale et avec plus de facilité qu'à une époque.
Peut-être, en tout cas, je le souhaite. Je pense que c'est très important que les femmes puissent verbaliser cet ensemble de pressions et de préjugés autour de la maternité et donc de la non-maternité qui leur pèse en fait, parce que ça conditionne d'une certaine manière leur choix.
Et on approche de la fin de cette émission, mais pas tout à fait. J'ai encore une dernière question pour mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
La question rituelle, vous le savez, du débat de midi, j'aime demander à mes invités avec quelle personnalité, vivante ou disparue, célèbre ou anonyme, quelle qu'elle soit, ils aimeraient, elles aimeraient en l'occurrence, pouvoir débattre. Fiona Schmidt, si je vous donnais la possibilité, si j'avais une baguette magique et je pouvais faire apparaître quelqu'un avec qui vous aimeriez discuter, débattre, polémiquer.
Alors je n'aimerais pas du tout débattre ni polémiquer, mais j'adorerais passer un moment avec Toni Morrison parce que ses romans m'enchantent et je trouve que c'était le plus grand écrivain tout genre confondu vivant. Il y a encore pas si longtemps, et elle aurait énormément de choses à m'apprendre sur notamment sur la construction de la blancheur en littérature.
Ouais.
Donc j'aurais pas envie de débattre.
Un petit mot juste sur la construction de la blancheur en littérature qu'on
comprenne. C'est le fait que les écrivains afro-américains, les écrivains noirs sont toujours décrits comme étant noirs, alors qu'on ne décrit pas Hemingway comme un homme blanc.
On précise pas qu'il est blanc.
Voilà. Et donc c'est une question que je maîtrise très mal et j'aurais adoré qu'elle m'en parle et voilà.
Constance de Champré, même question.
Alors moi j'aurais aimé pareil partager, échanger avec Marlène Chapsa, puisqu'en fait elle a commencé avec un blog
de l'égalité des droits des femmes.
Voilà, ministre de l'égalité des droits et des femmes, qui a commencé en fait par un blog Maman Travail. Et donc en fait, c'est un parcours très intéressant. Et donc j'aurais aimé partager avec elle sur les réseaux sociaux, l'influence que ça a eu dans sa carrière. Et puis aujourd'hui, son statut de maman, l'image qu'elle a, qui a énormément évolué justement. Et donc j'aurais aimé échanger avec elle sur ce sujet.
Je crois que c'est possible, hein, on peut vous trouver son adresse mail, ça doit pas être très compliqué. Camille Freud-Vométry, même question.
Alors pour ma part, j'aurais aimé discuter et débattre pour le coup avec une philosophe américaine qui s'appelle Iris Marion Young, qui est malheureusement décédée trop tôt en 2006. C'est une autrice qui s'inscrit dans le sillage de Simone de Beauvoir et qui propose un féminisme incarné qui est très important dans la réflexion que je mène personnellement autour du corps des femmes. Et ce féminisme incarné, elle tente de réaliser l'impossible, c'est-à-dire qu'elle réfléchit à la fois au corps des femmes comme étant évidemment le lieu par excellence de la domination masculine, mais également sur le versant positif comme étant un vecteur d'émancipation. Et elle a réfléchi en pionnière à des thèmes qui sont aujourd'hui brûlants dans le champ féministe. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps sexué, d'avoir ses règles, d'avoir des seins, de faire des enfants, etc. Et c'est une philosophe qui aurait beaucoup à nous dire aujourd'hui, au moment précis où nous en sommes du combat féministe.
Et je relève que vous avez toutes les trois choisi trois femmes. C'est la fin de cette émission. Merci à mes invités. Merci à la technique aujourd'hui, Nicolas Slimani et Patrick Henry. À la réalisation, Lucie Lemarchand. Demain, on va parler de porno éthique. Et avant de prendre des nouvelles de la bourse, une annonce. Le jeu des 1000 euros fait sa rentrée. Youpi, la semaine prochaine, Nicolas Stoufflet reprend la route des enregistrements et ça commence en Bretagne. Lundi prochain, le 19 août, il sera à Corseul et mardi à Plestin-les-Grèves dans les Côte d'Armor, sélection des candidats, enregistrement à 18h30. Allez-y nombreux.